France Musique, 11h07, voici le magazine de la chanson. Nous retrouvons aujourd'hui Martin Péné et Mathieu Ferré pour la deuxième des cinq émissions consacrées à Léo Ferré.
L'amour que je mets partout où je passe. Alors moi, je peux le mettre dans mes paroles, mes chansons. J'y devais penser que je fais du prosélytisme, je fais un calcul pour plaire et tout ça. Je me fais casser la gueule tout de suite, je me la casse tout seul. Qu'est-ce que je sais, jamais de ma vie, jamais, j'ai écrit quelque chose avec une idée derrière la tête, là. Petite idée derrière la tête pour un peu convaincre certaines personnes. Voilà.
Mathieu Ferré, bonjour.
Bonjour.
Pour cette deuxième émission, vous avez choisi d'approfondir l'écriture de votre père.
Oui, parce qu'après la musique, c'est forcément l'écriture qui est dans son œuvre fondamentale. Donc il y a un vocabulaire très riche, très recherché, un style qu'il a inventé, et puis son imaginaire. Il faut se laisser envahir, je pense, par ses textes. Moi, quand je le lis, je suis ailleurs, comme l'étranger de Bodner.
Alors dans cette émission, nous allons entendre la voix de Léo Ferré, bien sûr, et puis les témoignages de Robert Orville et de Richard Martin. Robert Orville, bonjour. Vous êtes professeur de littérature française à l'université de Lille 3. Vous êtes également directeur du département des études théâtrales. Vous avez fait publier un recueil de textes de Léo Ferré de 620 pages baptisé « La mauvaise graine » en 1993, un recueil sur lequel vous avez travaillé avec Léo avant sa disparition. Et vous faites partie du comité de rédaction des cahiers Léo Ferré. Je voulais vous demander, Robert Orville, de caractériser un petit peu l'écriture de Léo Ferré, de la situer par rapport à ses contemporains, tant dans le milieu de la chanson que peut-être d'une manière plus générale par rapport à la littérature du siècle.
Et je pense que Léo Ferré échappe très largement au monde de la chanson, et que moi je considère que c'est un des grands écrivains de l'après-guerre. Et son écriture est caractérisée par la diversité. Moi, je le caractériserais comme un auteur polymorphe. Et la chanson entre dans son activité de création, mais est seulement un des éléments de cette activité de création. Et il a en effet laissé une œuvre littéraire considérable qui s'inscrit dans de multiples types d'écriture. Il a en particulier pratiqué l'écriture théâtrale, qui a donné lieu à des spectacles, notamment montés à Marseille par Richard Martin au Théâtre Tourtzky. Il a également écrit de nombreux essais, hein, dont la profondeur philosophique surprend quand on les dit. Hein. C'est notamment la technique de l'exil, où il essaie de définir le statut du créateur, hein, qui est un être exilé, un être en marge, un être qui ne peut écrire que dans la solitude, et qui est en fait partagé entre cette nécessité de la solitude et cette nécessité de rentrer parfois dans le monde pour communiquer, ce qui crée chez un certain nombre de créateurs, comme par exemple chez Van Gogh, une tendance à la folie. Et ce thème de la folie qui est au centre de l'écriture pour Léo Ferré, il le reprend dans un texte aussi d'une très grande profondeur d'écriture, texte de caractère philosophique qui s'appelle « Introduction à la folie ». Et on pourrait comme ça multiplier les exemples. Il y a notamment un très beau texte sur l'anarchie qui s'intitule « L'anarchie et la formulation politique du désespoir ». Il y a un texte remarquable aussi qu'il a écrit dans les années 60 et qui s'intitule « Le style » et qui s'achève de la manière suivante pour montrer le caractère incisif et talentueux de l'écriture. « Je finirai par le trouver, ce style de l'invective. J'ai le papier qu'il faut et l'encre aussi. J'attends. » Et il a également une œuvre poétique considérable dont un certain nombre de textes n'ont pas été mis en musique. Et bien sûr, il y a toute cette œuvre de chansons hein, qui est la partie de l'œuvre de Léo Ferré connue et qui a peut-être, à mon avis, un peu trop occulté le reste de l'œuvre. Et évidemment, je ne parle que de l'œuvre littéraire, puisque je pense qu'il faut considérer que Léo Ferré était un créateur polymorphe, qu'il a abordé à un très haut niveau de très nombreux modes d'expression, puisque c'était évidemment un grand musicien. Ça a été un interprète hors pair, ça a été également un chef d'orchestre, un orchestrateur, et même un imprimeur, puisque dans sa maison italienne, il avait monté une imprimerie et il sortait lui-même ses textes.
J'ai la leucémie dans la marge, je m'endors sur des brisants. Quand mousse la crème du large que l'on donne aux marins enfants, reprends tes diberges, veux-tu, laisse un peu palabrer les autres. À trop parler, on meurt, sais-tu, y a pas plus con que les apôtres. Je vis dans la marge. Glisse dans le texte, la vague me prend tout mon sang. Je couche alors sous un prétexte que j'adultère vaguement. Je suis le sexe de la mer qu'un peu de brume désavoue. J'ouvre mon phare et j'y vois clair. Je fais du wonder à la proue. Je suis dans la marge. Musiquant des feuilles d'automne, je sais que jamais je n'irai fumer la cour de la Sorbonne, mais je suis gras comme l'hiver, comme un hiver analgésique, avec la rime au bout du verre, à la morgue de la musique. Je suis dans la marge. Le prophète bazar, le Jérémie des roses cuisses, une crevette sur le tard, attardée dans les interstices. Je baliverne mes ennuis, je dis que je suis à la pêche, et vers l'automne de mes nuits, je chandelle encore la chair fraîche. Je suis dans la marge. Tes bibelots, tes bonbons sûrs, tes oraisons, tes bigornades, tes salaisons, tes dessous murs, quand l'œil descend sous les œillades, regarde bien, c'est là qu'il gît le vert paradis de l'entraide vers l'entre-doux de ton doux nid. Si tu me tends le cul, je cède, je suis dans le texte.
Robert Orville, dans l'œuvre enregistrée de Léo Ferré, quelle est la partie, selon vous, qui dépasse le cadre de la chanson ?
Alors moi je pense que, mais bien sûr la coupure n'a pas été brutale, il y a eu toute une période de transition, mais je pense qu'à partir du moment où il abandonne les éditions Barclay, qu'il produit lui-même ses disques et surtout qu'il passe d'un accompagnement d'orchestre de variété à l'accompagnement de l'Orchestre symphonique de Milan.
Oui, je crois que la coupure se fait pas exactement au moment où il quitte Barclay, un peu avant, à partir de 68, quand il y a la création, je pense notamment au texte de Chien, et puis après il se découvre cette liberté, notamment à la fin de cette époque Barclay jusqu'en 74. De 68 à 74, la sortie du cadre de la chanson, elle s'opère à ce moment-là, j'ai l'impression. Il continue à faire aussi des chansons et tout ça, mais c'est vrai que je trouve que le texte Le Chien, où il n'y a plus rien, où les amants tristes, l'espoir, préface, je trouve, même si c'est préface, c'est un texte qu'il a écrit bien avant, je trouve qu'il sort de ce cadre de la chanson.
Ah oui, c'est sûr qu'il n'y a pas eu d'effet de rupture, hein, parce que dans aucune création, il y a des effets de rupture, mais je pense qu'il y a des circonstances de la création qui permettent, en quelque sorte, d'accentuer une évolution. Et à partir du moment où il prend sa liberté de création, puisqu'il ne dépend plus d'une maison d'édition, et à partir du moment où, parallèlement, il change de support musical, l'orchestre de variété étant remplacé par un orchestre symphonique, les tendances à cette écriture beaucoup plus ample qui se manifestait déjà précédemment s'accentuent. Hein, et il a à ce moment-là tendance de ne pratiquer plus que ce type d'écriture qui échappe totalement à la chanson, à la fois par la dimension des textes, hein, puisqu'on échappe tout à fait au fameux cadrage des 3 minutes de la chanson traditionnelle, que par l'ampleur des textes et la qualité littéraire des textes, et puis également cet aspect musical qui change totalement, puisqu'on passe de la musique de variété à une musique qui est très très proche de ce qu'on pourrait appeler la musique classique. Hein.
Mais il y a aussi son interprétation qui intervient.
Alors en ce qui concerne l'interprétation, je crois que l'évolution ne recoupe pas l'évolution de l'écriture des textes, puisque moi j'ai toujours été frappé chez Léo Ferré par ce renforcement, cet approfondissement de la voix qui se manifeste tout au cours de la carrière. C'est évident qu'au début de sa carrière, il a une voix relativement ténue, et qu'au fil des années, cette voix tente à s'amplifier, à prendre du caractère et de l'originalité par rapport à la voix d'origine. Et c'est cette évolution, je pense, est en liaison peut-être avec une évolution physique, hein, et n'est pas parallèle avec l'évolution des textes.
J'étais un grand bateau descendant la Garonne, farci de contrebande et bourré d'Espagnols. Les gens qui regardaient saluaient la Madone que j'avais attachée en poupe par le col. Un jour je m'en irai très loin en Amérique donner des tonnes d'or aux nègres du coton. Je serai le bateau bon sang et prophétique et Bordeaux croulera sous mes vastes pontons. Qu'il est long chemin d'Amérique, qu'il est long le chemin de l'amour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. T'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Puisque les voyages forment la jeunesse, t'en fais pas, mon ami, je vieillirai. Rassasié d'or ancien, ployant sous les tropiques, un jour m'en reviendrai les voiles en avant, porteur de blé nouveau avec mes coups de trique. Tout seul, mieux qu'un marin, je violerai le vent. Harnaché d'Espagnol, remontant la Garonne, je rentrerai chez nous, éclatant de lueur. Les gens s'écarteront, saluant la Madone, en poupe par le col, et d'une autre couleur. Qu'il est doux le chemin de l'Espagne, qu'il est doux le chemin du retour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. T'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Puisque les voyages forment la jeunesse, je te dirai, mon ami, à ton tour. ton tour.
Robert Orville, souvent on assimile un petit peu Léo Ferré au peloton de tête des grands auteurs, compositeurs, interprètes de la chanson française des années 50 à 70, donc c'est-à-dire avec Brel, Brassens et puis d'autres encore derrière. Est-ce que pour vous cette comparaison est justifiée?
Moi je pense pas qu'on puisse mettre Brel, Brassens en parallèle avec Léo Ferré, bien que moi en tant qu'auteur de chansons j'aime bien Brel et Brassens, parce que la caractéristique de Léo Ferré c'est d'être à mon avis un écrivain qui entre autres a écrit des chansons, qui ne s'est pas enfermé uniquement à l'intérieur de l'univers de la chanson. Alors je sais bien que Brel a été metteur en scène de cinéma durant une période et que par conséquent il y a aussi deux pans de sa carrière, mais Léo Ferré a mené parallèlement ces deux aspects, parce que quand on regarde la date des textes, on s'aperçoit que parallèlement à l'écriture, par exemple dans les années 50-60, de textes qui en effet rentrent tout à fait dans la catégorie de la chanson, il écrit d'autres textes qui s'inscrivent à l'intérieur d'une création littéraire proprement dite. Et on a un petit peu l'impression que l'écriture de la chanson proprement dite a en quelque sorte rejoint cette écriture littéraire qu'il pratique dès le début de sa carrière. Et ces deux se rejoignant à l'occasion de ces deux événements que j'ai indiqués tout à l'heure, c'est-à-dire son départ de chez Barclay et son changement de support musical.
Il y avait dans la gorge à Jimmy tant de soleil à 300 balles, du blues, du rêve et du whisky, tout comme dans les bars à Pigalle. C'est à la une des quotidiens, ça fait du tort aux diplomates. Jimmy l'a vu au petit matin, avec un saxo dans les pattes. Ça fait un bruit dans le monde entier, à faire danser tous les cimetières, les orgues à Saint-Germain-des-Prés en perdent le souffle et la prière.
Dieu est nègre, un texte tiré de Poète vos papiers, mis en musique dès 1958 par Léo Ferré, qui l'année précédente présentait son recueil de poèmes dans l'émission Les Belles Lettres.
Léo Ferré, votre premier recueil de poèmes, intitulé Poète vos papiers, et qui vient de paraître aux éditions de la Table Ronde, pose tout d'abord un petit problème, ou plutôt nous force à nous poser une question. Qu'avez-vous voulu dire exactement par cette phrase impérative? Cette phrase qu'un agent de la littérature ou hors littérature pourrait poser à un poète, « Poète, vos papiers ». Voulez-vous nous exprimer ce que vous avez voulu dire et peut-être l'amphibologie qu'il y a dans le mot « vos papiers », le poète qui donne ses papiers et le poète qui se sert des papiers pour écrire?
Eh bien, c'est bien ça, au fond. Parce que le poète, s'il a à montrer quelque chose, il a à montrer ses papiers. Et vous dites le mot amphibologie, et bien c'est exact. Quoi. C'est
je m'excuse d'être un peu pédant, en effet, dans une matière qui,
c'est un mot français.
Au contraire... refuse la pédanterie, car la poésie n'en veut pas. Mais donc, poète, vos papiers, vous avez voulu exprimer l'idée de cette incarcération du poète dans la vie moderne, tout de même, j'ai l'impression
peu,
que pour vous,
que...
le poète, c'est l'anarchiste.
Oui, et puis traqué un peu, quoi, puis incompris, toujours. Moi, quand j'étais petit, dans ma famille, on m'appelait... je suis du Midi, vous savez, on m'appelait poète, poète. Vous savez, on me disait poète, mais comme avec... comment dirais-je
une nuance de regret, non pas, ou de reproche.
De reproche.
Un peu d'ironie.
Ironie, oui, ironie un peu méchante, je crois. Au fond, les poètes, ça ennuie les gens. On ne sait pas pourquoi. Ce sont des gens très gentils d'habitude. Ça ennuie.
Ah, ça, je ne sais pas. Je pense que vous êtes un peu pessimiste. On ne les ennuie pas. Tellement, les poètes, et ils ne nous ennuient pas. Et justement, vous avez su prouver combien la poésie pouvait passionner une époque et pas seulement le public prétendument préparé à écouter la poésie, car votre auditoire ne comporte pas que des gens lettrés. Et justement, votre poésie touche un vaste auditoire qui se moque généralement de la poésie.
Justement, c'est ça qui est embêtant, c'est qui est très caractéristique. Vous comprenez, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai d'abord voulu mettre ce titre qui était un peu, peut-être, que vous trouverez peut-être agressif un peu, mais je crois que c'est très important pour que ça accroche l'œil du monsieur qui essaye d'acheter un livre. Et mon Dieu, la poésie, en principe, ça l'intéresse pas. Les gens qui lisent, quoi, qui lisent les romans, enfin, qui lisent ce qu'on appelle les best-sellers, n'est-ce pas ? C'est très difficile de rentrer dans le salon, sur la table de chevet des gens, vous comprenez ?
À partir d'une de vos explications, dans votre préface, la poésie est une clameur, dites-vous, elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Vous pensez donc que la poésie que lisent les gens dans un livre enfermé dans leur salon, s'ils ne la disent pas à haute voix, n'est pas réellement la poésie telle que vous l'entendez. Et quand je dis que telle que vous l'entendez, justement, je fais un jeu de mots. La poésie, pour vous, est avant tout audible.
Et oui, et puis, c'est facile, d'ailleurs, parce que lorsqu'on lit la poésie, même si on ne la lit pas à haute voix, je vais dire quelque chose qui a l'air incompréhensible, on la lit à haute voix mentalement. Vous comprenez
je comprends bien, en effet.
On dit les syllabes, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que il y a la musique, quoi, la musique des vers, la musique des mots aussi.
La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. Un menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire, qui consiste en poésie, à n'employer que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigt et du baise-doigt. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Rutebeuf avait faim. Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique. Et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu'à en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir? Avec nos avions qui dament le plomb au soleil. Avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues. Avec nos âmes en rade au milieu des rues.
Nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le vers doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie, on n'apprend pas. On se bat.
Poète, vos papiers. Oui, c'est une histoire, ça. Bon, dans une certaine mesure, quoi. Je connaissais... Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, quand même. Je dis les choses que j'ai... J'ai admis comme ça parce que je ne peux rien faire d'autre, mais les choses qui m'ont frappé, je connaissais bien, m'entendre souvent chanter, quand j'étais au Code Libette, Raymond Queneau. Mais Raymond Queneau était, c'est un type très marrant, et quand il riait à des choses que je chante, à certaines choses qui déclenchaient le rire dans mes textes, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, alors il riait comme ça, mais vraiment, quoi, il s'appelait. Elle y était chez Gallimard, il s'occupait de l'encyclopédie, quoi. Hein? Je crois que les cahiers de l'encyclopédie, je sais pas
la
comment
Pléiade.
C'est. La Pléiade, oui. C'est lui qui a créé ça. Alors, je sais pas, moi j'ai... Il y avait pas tous les poèmes qui sont là-dedans, il y en a une grande partie, parce que j'avais écrit ça en 47, en 48. C'est ça, oui. Alors j'ai été à Gallimard, je l'ai mis dans la boîte. Parce que moi, j'aime pas aller taper, frapper les portes, demander les choses. Ouais, bon, je suis comme ça, quoi. Je n'ai jamais rien su, quoi. Jamais. Jamais rien su, quoi. Chez Gallimard, on ne veut pas m'aimer, hein. C'est des drôles de mecs, chez Gallimard. Faut le dire, on a l'occasion de le dire, hein. Chez Gallimard, il y a de drôles de mecs, quand même. Faut bien le dire, quoi. Sans blague, quoi. Hein? Voilà, parce que c'était... C'est pas du caca, ça, quand même, hein. Bon... Je n'honore pas, moi, ce que j'écris, mais moi, c'est comme si c'est pas moi qui l'avais écrit, alors je m'en fous. Des fois, je lis des choses, je me dis, tiens, c'est moi qui ai fait ça. Bon. Et vous croyez que les gens... Oui, il y a un poème qui s'appelle « Les roses de la merde », alors, évidemment, on peut pas mettre ça dans la Pléiade, quoi. C'est ça. Et c'est terrible, quoi. C'est terrible.
Je crois que tu avais fait voir ce livre avant publication, André Breton.
Ah oui, 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 c'est ça, oui. Ce livre, alors, je l'avais fait écouter un soir. J'étais très ami avec lui et... au magnétophone, les poésies qui sont là-dedans, toutes les poésies. Il avait écouté, alors je lui ai dit, à la fin, j'ai dit une chose, alors à là, j'ai demandé quelque chose, que je me suis un peu mouillé quand même. Hein. On n'est pas toujours lugubre et terrible, comme ça, distingué et orgueilleux. Hein. Et alors je lui ai dit, écoutez André, vous voudriez bien me faire une introduction, quelque chose, me présenter, quoi. Ça m'aurait fait plaisir, quoi. Parce qu'il avait déjà dit des choses dans une revue, et puis... Pour moi, c'était un type que j'aimais beaucoup. Il me dit, il n'y a pas de problème, Léo. Alors, je lui donne le manuscrit dactylographié de ce qu'il venait d'écouter. Il était allé se coucher dans sa chambre. Il habitait une chambre toute tapissée de rouge. Et il avait dit un jour, j'ai dormi dans une cerise. Enfin, il était comme ça. Il avait des côtés très, très, très recherchés, très sympathiques. Et... Le lendemain matin, je descends, il y avait mes chiens, mes Saint-Bernard, là. J'étais dehors. Il n'aimait pas beaucoup les chiens. Et alors, il était dans un divan, là, comme ça, dehors, dans une chaise. Il faisait la gueule. Alors, moi, je sais pas. Moi, je lui disais qu'il est avec les chiens. Alors, j'ai appelé les chiens, tu vois. Les chiens, ils étaient tranquilles, là. Je suis allé vers lui. Je lui dis, bonjour André, ça va? Il m'a dit, Léo. En danger de mort, ne faites jamais paraître ce livre. Voilà.
Avant de passer l'arme à gauche, avant que la foule me fauche, tel jour, telle heure, en telle année, sans fric, sans papier, sans notaire, je te laisse ici l'inventaire de ce que j'ai mis de côté. La serviette en papier où tu laisses à ta bouche ma mèche de cheveux quand il n'était pas gris, mon foulard, quelqu'un pensant qui crache de la
l'avoine, c'est la cadence de l'usine. À l'Élysée, c'est un cri de mouette au-dessus de la douane. C'est l'illettré qui va corriger ta dictée. C'est le chemin de croix dans une discothèque. C'est la flagellation qui descend de ta croix. C'est le champignon de Paris qui fait du grec. C'est le pouvoir jaloux qui part au syndicat. La vendetta. La vendetta. C'est une contredanse à l'encre sympathique. C'est la constitution en bande dessinée. C'est un chagrin organisé qui tient boutique. C'est une clé des champs qui exige un ticket. C'est le béton qui fait du gringue à Michel-Ange. C'est la boussole qui se perd dans un flipper. C'est le vin rouge au syndicat de la vendange. C'est le parfum au syndicat des balayeurs. La vendetta. La vendetta. C'est un paravent triste où se pare Venise. C'est la chanson du vent qui rock avec Mozart. C'est le pétrole en trop qui fuit de ta valise. C'est l'impair qui se prend pour deux fois deux trop tard. C'est la fourrure qui regagne ses pénates. C'est la panthère qui s'éclate à l'opéra. C'est un lièvre tranquille, un revolver aux pattes. C'est la neuvième fois et c'est toujours la joie. La vendetta. La vendetta.
Léo Ferré, est-ce que l'on peut parler d'esthétique en ce qui concerne la poésie que vous écrivez? J'entends la poésie à lire.
Esthétique, c'est un bien grand mot. Je pense que, pour moi, la poésie est une chose en forme, avec des règles strictes, je m'y soumets. Et c'est tout. Il y a le vers, et puis il y a la prose. Alors on essaye de me faire dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que de me faire imaginer qu'il n'y avait la poésie que dans le vers, ce qui est faux. Il peut y avoir la poésie, il y a de la poésie dans le béton armé. Je ne pense pas que c'est une chose, je ne veux pas qu'il faille se dire « Ah, je suis tenant d'une tradition, je vais me mettre à une table et puis je vais écrire de la poésie ou bien je vais me mettre sur un chevalet, je vais faire de la peinture. » Je pense que le vers, c'est de la musique et ça doit venir tout seul, vous comprenez, ou ça ne vient pas. Alors après, évidemment, on travaille sur ce qui vous est plus ou moins donné, n'est-ce pas?
Ça sent la prairie lointaine et désolée. Ça sent les sources qui ne tarissent jamais. Ça sent les cavalcades déchaînées. Far West et l'azur, le Tyrol et la neige, l'Alpe et les cloches dans la vallée. Ça sent le bon lait et les croissants tout chauds qui viennent du boulanger. Ça sent les consciences fatiguées, desséché. Ça sent la terre antique et solennelle qui tourne tout autour du soleil. Ça sent l'homme, ça sent aussi un peu le sang à la Villette. Thank you.
Mathieu Ferré, dans chaque émission de cette série, vous nous offrez une rareté de Léo Ferré.
Oui, donc ça c'était à La Villette, une chanson que mon père avait enregistrée pour la radio à la fin des années 40. Et là encore à nouveau, un enregistrement pour la radio par Jonqui Santamaro, un groupe de jeunes personnes de Montpellier.
Vous vous occupez des éditions La Mémoire et la Mer, fondées par Léo Ferré en 1992, peu avant sa mort, et vous vous attachez depuis à faire connaître tous les écrits de votre père en les publiant. Parlez-nous un petit peu de son œuvre littéraire.
Bien, il y a une masse considérable de textes qu'on retrouve chez nous, donc on est en train de faire un travail de recensement, et tout doucement on publie des choses qu'on retrouve. Donc on a publié déjà plusieurs choses, des textes comme « Je parle à n'importe qui va être publié en septembre, sinon « La méthode », cinq textes qui s'appellent « Marie-Jeanne », qui étaient des sortes de monologues pour la télé, un projet qu'il avait d'émission. Des choses comme ça qui soit avaient été publiées par des éditeurs, ou soit ne l'avaient jamais été. Et par exemple aussi des émissions que j'avais retrouvées... sur la musique classique, des émissions qu'il avait fait pour Paris Inter en 53, quand j'ai trouvé ces textes, c'était des conducteurs, j'ai lu ça et ça m'a tout de suite paru évident qu'il fallait les publier parce que c'est important. Donc, puis il y a toute une quantité effectivement de textes en prose, bon, les choses qui sont en vers, les chansons, les gens les connaissent plus facilement de par le disque. Puis il y a Benoît Misère, publié chez Lafon en 70. En introduction, mon père dit « Ce roman n'est pas autobiographique », mais je crois que c'est un peu faux quelque part, parce qu'il parle beaucoup de son enfance là-dedans. Mais d'ailleurs, mon père va vous en parler lui-même maintenant.
J'écrivais ça pour moi. Ça me remettait en mémoire mon enfance. Et mon enfance, on peut arranger, bien sûr. Hein. Bon. Le roman, c'est ça. Hein. C'est quelque chose de vécu, et puis qu'on arrange, quoi. Mais il y a des choses qui sont vraies. En prison, par exemple, c'est-à-dire le collège, j'ai rien inventé. J'ai écrit d'une façon un peu, bon... mes oncles. Mon oncle Barbakino, c'était vraiment lui. L'oncle horloger, c'était... Il m'a jamais parlé comme ça, quoi. Hein. Bon, c'est moi qui ai repris ça. Papa Cube, c'était mon père, mais il n'était pas comme ça, bon. La Palette, c'était le frère de mon père. C'était un type qui avait du talent, qui était un grand dessinateur. Et son âge, était un peu imméniant. Et puis, Stradi aussi, c'est des choses... J'avais effectivement mon oncle qui avait été violoniste, tout ça, mais j'ai tout inventé là-dedans. La main noire, c'était avec les gosses, avec mes copains. Alors ça, c'est vrai. Il y a des tas de choses vraies, quoi. En prison, c'est le collège. Après le Charbonnier de Rotterdam, c'est toujours l'histoire de mon enfance. Alors, bien sûr, lyrisé, quoi, avec du style et tout ça. Enfin, c'est mon style, quoi. Cosette, châtain clair, peau de banane, peau de basane. On s'embrassait entre deux. Il ne me déplaisait pas de trouer ses chastes complexes. Cosette, mou de cierge, fleur malade. Cosette, mon jardin de dévaine. Quand je la reconstruis aujourd'hui, elle m'échappe un peu. Je n'arrive pas à me souvenir de tout. Des riens, des fièvres rapides, des hauts, des bas. Le froid aussi, quand elle me regardait de côté comme si elle voyait des choses. Cosette, c'était ma pureté aussi, ma vie cachée. Elle était celle avec qui je partais la nuit, vers le Caucase, vers les pays de mes problèmes. Quand elle mettait sa jupe noire, je la bénissais. Quand elle mettait les bas de sa mère, l'après-midi, dans cette maison d'ombre, aux persiennes ajourées, les jalousies les filtraient un peu de cette lumière des amants, pas trop, juste pour voir avant de faire. Juste pour voir avant de faire, le soleil en lamelles. Dans cette chambre où flottait un relent d'huile d'olive, que sa crasse précise fixée dans mes narines jouait sur mon corps comme sur un vitrail. Ses bas pendaient comme des reliques de fil au-dessous de l'air bleu de son virginal. Je le voyais bleu comme le ciel après l'amour, quand les plantes sont pleines de vie, à même les carreaux rouges, parce qu'il faisait chaud. Sa chair beige, prête aux pâles, que je ne pouvais lui offrir, attendait que je ne sais quelle bénédiction, et je palliais l'insuffisante promesse qu'elle était en droit d'attendre de moi par une suite de manigances de lèvres qui se faisaient tantôt pêche, tantôt pieuvre, tandis que mon index aiguisait son geste. Le soleil, toujours filtré, y jouait. Elle commençait à jouer elle aussi, comme un nageur, sur l'eau plate du pavement. Je le touchais. Il était tiède comme le lit, le pavement strié, par le temps et humide un peu, à un seul endroit de son désordre pucelle, dans le pré râpé de son printemps de 13 années, je cherchais la racine du mot amour et je m'y employais longtemps. C'est là qu'elle chantait cette chanson grégorienne qui collait comme une prière. Et ces paroles, je les buvais. Des paroles comme la menthe qui laissent un long moment le souvenir dans la bouche. Bientôt, elle avait le Christ au bout des lèvres.
De rien. Elle me happa la main avec sa gueule d'en bas, sans qu'elle le sût, comme une succion. C'était moi, la tête chercheuse. Ma main était devenue comme ces objets en caoutchouc rond avec un manche et qui servent à dégorger les lavabos rétifs. Cet objet suce à la gorge les évidences de la saleté. Il faut forcer pour décoller. Et ça fait floc. Ma main fit floc. La femme, extasiée, me mordit à la lèvre. Baiser de secours de la belle passante de l'escalier B du bloc A dans l'ensemble se cède. Je ne me lavais plus. La marée rousse avait séché un givre de foutre que je grattais longtemps avec un canif à la lame effilée. Et je mangeais le souvenir. C'était comme du sable, un peu gras.
Mathieu Ferré, en plus de l'œuvre poétique et littéraire de votre père, il faut parler de son travail pour le théâtre.
Oui, bien, son travail pour le théâtre, il a collaboré avec Richard Martin, l'Opéra des Rats. Il a écrit les dialogues. C'est la première fois où il travaillait avec un homme de théâtre, vraiment un osmose, on va dire. Sinon, précédemment, il avait écrit des choses, Les Noces de Londres, qui est un texte qui avait été écrit en 1950, mais qui était resté inédit jusqu'à cette année, que je viens de publier là, au mois de mars. En 56, il fait un ballet qui s'appelait La Nuit, avec Roland Petit, par lequel il avait été complètement esquinté par la critique, parce que bon, c'est toujours pareil, la même chose, la variété, il faut pas toucher à d'autres domaines que ce qu'on vous accorde. Et puis, en 83, il a enregistré l'Opéra du Pauvre, qui faisait partie de La Nuit. L'Opéra du Pauvre, c'est un opéra, c'est fantastique, quoi. Ça a été monté plusieurs fois en mise en scène. C'est vraiment quelque chose d'écrit pour le théâtre.
Richard Martin, que vous citiez, dirige le théâtre Tourski à Marseille, et vous l'avez rencontré.
J'ai jamais pris Léo comme un chansonnier, parce que la force de son verbe, son style, parce que je crois que après Léo, on peut pas écrire de la même manière. La littérature contemporaine là vient de s'enrichir d'un souffle étonnant, et que c'est vrai qu'on ne peut pas écrire maintenant la poésie de la même façon après avoir entendu Léo, en tout cas. Quiconque en sera influencé, quiconque aura intégré, qu'il aime ou qu'il n'aime pas cette façon poétique, il ne peut pas l'ignorer. C'est un des moments forts du siècle passé, et la poésie s'est enrichie avec Léo d'une manière différente, d'un souffle épique, d'un ce volcan en éruption qui de temps en temps se calme et rejaillit, qui donne une dimension nouvelle à la poésie contemporaine. On finit par se foutre de savoir si c'est en vers ou si c'est en prose. C'est de la poésie, c'est de la poésie pure. C'est de la poésie pure avec un verbe actuel, une pensée contemporaine forte, visionnaire. Je pense que Léo est un visionnaire et qu'on ne cessera de se rendre compte de ses facultés de voir au fur et à mesure qu'on avancera dans le prochain siècle. Enfin, j'en suis intimement persuadé.
Spécial Léo Ferré, proposé par Martin Penet et Mathieu Ferré. Cette semaine, l'écriture, en compagnie de Robert Orville et Richard Martin. Nous avons entendu une rareté de Léo Ferré, interprétée spécialement pour cette émission par le groupe Jonquille Senteur Mao. Merci à Florence D'Artois et Anne de Biran pour les archives de l'INA. Mixage Serge Ristich. Franck Berger, réalisation Annie Roger.
La semaine prochaine, samedi prochain à 11h05, Léo Ferré et les poètes maudits. Vous écoutez France Musique, il est maintenant midi et une minute, les dernières nouvelles avec Anne-Natacha Bouillon.
En deux minutes, j'ai lu quelque part que vous avez écrit « L'anarchie, c'est l'extrême solitude ».
Oui.
Comment vous la vivez, cette extrême solitude ?
Ah ben ça, je ne peux pas vous expliquer, vous savez, l'artiste est un type seul, hein. Seul, oui. Ça, je peux pas expliquer. Moi, je suis chez moi, il y a du monde, ça. Quand je rentre en scène, je suis seul aussi. Tout en seul, quoi. Ça fait partie de... je sais pas, moi. J'ai les yeux marrons et je suis seul, quoi. J'ai les cheveux blancs et je suis seul.
Ni Dieu, ni maître.
Ah, ni Dieu, ni maître, ah oui, c'est ça. Et ça ressemble à au mot de l'anarchie qui est ce que je vous disais tout à l'heure, que j'avais trouvé dans le petit dictionnaire Larousse quand j'étais petit. Parce qu'il n'y avait que ça. Négation de toute autorité, d'où qu'elle vienne, point. Maintenant, allez voir dans les dictionnaires. Vous comprenez?
On va revenir à nos poètes, Léo Ferré, à Apollinaire, à Baudelaire, à...
Oui, tout Apollinaire, c'est un grand poète aussi. Hein.
Oui. Pensez-vous que s'ils avaient vécu aujourd'hui, ils auraient pu aider à changer le monde?
Non.
Non.
Comprenez-vous qu'on pourrait changer le monde? Voyons. Hein? Il faut qu'il aille chercher le pétrole dans le Golfe. Hein, qui s'appelle Bush. Voilà. Et il ne change même pas le monde.
On a parlé vaguement d'un archevêque tout à l'heure, et vous m'avez fait bien rire en parlant de la cigarette qu'il ne fallait pas fumer, de peur de s'intoxiquer. Je remarque que vous toussez beaucoup depuis le début de l'interview.
Non, mais ça, c'est parce que je sais pas, moi, je... Comme vous, de temps en temps, je vais tousser.
Je vais tousser pour faire plaisir. Voilà, on est d'accord. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'aimiez pas chanter, en fait. Et pourtant, vous avez ajouté un jour que sans cela, vous n'auriez peut-être jamais écrit un seul vers.
Non.
C'est pas vrai?
Oui.
Oui.
Si je n'avais pas pu.
Oui.
Voilà. Il se trouve que j'ai réussi à des choses qui tenaient debout un peu, et ça m'a permis de ça m'a autorisé, moi, vis-à-vis de l'avenir, de l'avenir, du lendemain, tout ce que vous voulez, ça m'a permis de vivre. Et je n'aurais pas pu le faire si j'aurais pu très bien avoir un grand talent de poète. Et en même temps aussi un grand talent de musicien, que ça marche. Et la voix. Si j'ai pas la voix, qu'est-ce que je fais? Que dalle? Alors j'écris pas. Voilà.
Tout le monde sait, Léo Ferré, que vous vivez en Toscane.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de la Toscane et des Italiens?
Ça va, c'est bien.
Ça va?
Je suis là-bas parce que j'étais là-bas, parce que j'ai mes enfants que j'ai eus là-bas, ils sont à l'école là-bas, ils parlent italien là-bas très bien, tellement que des fois je les comprends pas, je me mets en colère. Et voilà, c'est tout. Je voulais partir un moment, mais où aller? Je sais pas, j'aurais été facilement vivre, j'aurais dû le faire au début, j'aurais été vivre facilement et avec plaisir en Irlande. C'est un pays merveilleux. Pas celle d'en haut des protestants, non, celle d'en bas.
Vous vous rappelez les mots que vous avez eus pour l'Académie française tout à l'heure?
Oui.
On les retiendra. Les mots que vous avez eus pour l'Église, on les retiendra également. Les mots que vous avez eus pour l'Amérique, pour la guerre, pour le pétrole. On n'est pas très très mal à l'aise quand on vit dans un monde, quand on est cerné comme ça par des institutions, par des multinationales, par des superpuissances.
Oui, je crois, moi, on dit comme moi, mais la plupart des gens se laissent faire et finissent par être contents de vivre dans ce monde. Mais oui, c'est terrible ça. C'est terrible. Et puis des fois, il y a des événements qui... Je me demande comment les gens font pour prendre ça, ça doit être extraordinaire.
Petit.
Hier soir, j'ai vu à la télévision un type qui avait sa femme 20 ans, lui 23 ans, qui gagnait 3000 francs par mois, quoi. Ils ont fait ils ont gagné au loto 5 milliards anciens, quoi. Ce qui, immédiatement, en les plaçant, leur rapportera 1 200 000 centimes par jour. Vous vous rendez compte? Alors je me dis, comment ces gens-là vont réagir? Qu'est-ce qui va leur arriver? C'est terrible, ça. On ne peut pas savoir. Et c'est merveilleux, comme un cadeau du génie de qui? De là-bas, quoi.
De là-bas. Alors de là-bas, c'est on ne sait pas où, quoi.
Eh oui, là-bas, ça existe, hein, mais comment? Vous savez, c'est fantastique. Un jour, la Terre s'est détachée du Soleil, tout en feu, et des milliards d'années après, ça s'est refroidi et il y a eu des amibes. Et tout ça finit par Beethoven, par Einstein, par la télévision. Comment expliquer ça, hein? C'est fantastique, personne ne peut l'expliquer, ça.
Léo Ferré, je vais vous poser une question qui va peut-être pas vous faire plaisir, pardonnez-moi à l'avance, hein, parce que je vais citer Jacques Brel, que, bon, je vais dire que vous le portez dans votre cœur. Est-ce que, comme Jacques Brel, vous diriez,